Bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Alors chaque mois, nous redécouvrons et approfondissons l'histoire chartraine grâce aux découvertes archéologiques. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir donc Laurent Collomb et Jérémy Viré de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres et de Chartres Métropole pour redécouvrir ensemble le quartier des Grandes Filles Dieu. Alors je rappelle qu'on essaye toujours dans l'émission de coller à l'actualité, et l'actualité là c'est votre ville de ce mois-ci, un dossier quartier consacré à ce secteur de la ville. Et donc avec les archéologues, c'est toujours un moment de partage de connaissances et de partager ce passé ancien. Et grâce à Jérémy et Laurent, nous allons voir que ce quartier, dès l'Antiquité, a été occupé, et c'est l'objet de notre émission aujourd'hui. Alors, Jérémy, quels sont où se situe ce quartier de la ville à l'époque antique ?
Alors, à l'époque antique, on se situe à l'intérieur de l'enceinte urbaine, qui est matérialisée par un fossé dont on a retrouvé des traces dans la rue Berlatam, donc pas très loin de la rue des Grandes Filles Dieu. Et on est sur la rive droite de l'Eure. Alors, c'est un secteur un peu en marge du centre urbain, mais c'est un secteur qui est densément occupé assez précocement.
Et ce quartier, il va être occupé donc de manière précoce, et les traces d'occupation antique, vous les constatez jusqu'à quelle époque ?
Alors, on les constate jusqu'au IIIe siècle. C'est une époque où, pour les quartiers périphériques, comme le quartier des Filles Dieu, on observe une déprise urbaine avec une rétractation donc, de l'occupation vers le cœur de la ville, qui se situe plutôt sur l'éperon, à proximité de la cathédrale.
Et là, pour aboutir à tout ce que vous allez nous dire dans la première partie de l'émission sur le passé antique du quartier Grandes Filles Dieu, combien d'observations archéologiques avez-vous pu mener ? Combien de temps ont-elles pu durer ?
Alors, les premières observations archéologiques commencent dès le XIXe siècle, à l'occasion de travaux dans la rue des Petites Filles Dieu. Ensuite, il faut attendre les années 80 pour que plusieurs fouilles soient menées dans le cadre de la construction d'habitations. Et le service archéologique a plus récemment effectué plusieurs fouilles en 2011 et jusqu'en 2017.
Donc des observations ponctuelles, mais aussi de longue durée. Alors, je crois qu'il y a eu une grande fouille, et ça va être l'objet de la première partie de l'émission, une découverte donc d'un atelier de potier, c'est ça Jérémy ?
Voilà, c'est ça, c'est une des découvertes majeures du quartier.
Laurent, par la suite, comment évolue le quartier au-delà du... sans rentrer dans le détail, mais on est toujours à la périphérie de la ville après le IIIe siècle. Comment, après cette rétractation, que devient un peu ce secteur ?
Alors ce secteur va sombrer un petit peu dans l'inconnu, puisque sur un plan archéologique, nous avons très peu d'observations pour les périodes postérieures à l'Antiquité. Mais grâce au texte, il renaît, je vais dire, à la lumière. À partir du XIe siècle, ça devient un faubourg de la ville médiévale et moderne, et puis c'est un secteur qui est quasiment intégralement planté en vigne, et on va avoir un épisode qui se rattache à un fait historique, mais qui est un épisode rapporté par la tradition, qui se rapporte au siège de 911, au siège de la ville, par Rollon et ses Normands.
Alors, on n'en dit pas plus tout de suite, parce que ça, c'est un épisode que vous allez nous décrire en seconde partie d'émission, Laurent, merci. Laurent, vous qui êtes historien, quelles sont vos sources, justement, pour, sur quel texte vous êtes-vous, avez-vous pu découvrir pour retracer cette histoire du quartier ?
Alors, pour les périodes les plus anciennes, on va se se baser sur les chroniques et les annales. Il y a assez peu quand même de textes, et quand on en a, ils sont assez laconiques. Et à partir des 10e, 11e siècles, on peut s'appuyer sur des cartulaires et aussi sur les nécrologes, qui nous apportent beaucoup de mentions de lieux.
Merci Laurent pour cette précision. On va faire notre première pause musicale de l'émission avant de découvrir avec Jérémy Viéré donc le passé antique du quartier des Grandes Filles Dieu, et on enchaînera après avec Laurent Coulon pour découvrir le passé médiéval de ce quartier.
I used to love you, but it's all over. All over now. Yes, it's all over town. How you put me down. You shouldn't let that kind of talking go around. You had your chance, but now it's all over. I'll get along somehow. The things that you did that I used to forgive, you'll never change as long as you live. I used to love you, but it's all over. All
poursuivons notre émission Histoire et Mémoire consacrée aujourd'hui à l'histoire du quartier des Grandes Filles Dieu. Alors je suis avec Jérémy Viéré qui a encadré des fouilles dans ce secteur. Alors Jérémy, est-ce que vous pouvez nous redire avec plus de précision quel était le quartier à l'époque antique ?
Alors, à l'époque antique, les premières traces d'occupation concernent la construction d'une voirie qui se met en place dès l'époque augustéenne, au début du 1er siècle de notre ère. Et cette voirie est mise en place probablement pour prévoir l'extension de la ville qui va se développer énormément à partir du milieu du 1er siècle.
On avait vu dans des émissions précédentes que cette voirie était souvent quadrillée sous forme de plan orthonormé. Est-ce que c'est le cas ici aussi dans ce quartier ?
Oui, tout à fait. La voirie suit un axe nord-est-sud-ouest. C'est d'ailleurs un quadrillage qui correspond au quadrillage qui est mis en place probablement à la même époque dans le centre de la ville sur l'éperon.
Et alors, au-delà de cette voirie, est-ce que vous avez retrouvé des traces d'activités plus précises ? On évoquait tout à l'heure de l'artisanat.
Alors, l'artisanat tient une place très importante dans le quartier. À partir du milieu du 1er siècle, justement, on a trouvé des traces du travail du bronze, du travail de l'os. Mais l'artisanat le plus important, l'artisanat prépondérant, c'est le travail de la poterie. L'importance de la fabrication de poterie est connue dès le 19e, puisque les premières découvertes archéologiques du secteur concernent un four dont on ne connaît pas l'emplacement exact et des ratés de cuisson. Donc, ce sont des poteries qui ont connu un accident de cuisson et qui ont été jetées. Et on a découvert un atelier de potier et plusieurs fours.
Et là, combien d'ateliers de potiers ou combien de tours ou fours avez-vous découvert ? Est-ce que c'était du coup un grand ensemble, un grand atelier avec une grosse production ?
Alors, on a trouvé un atelier avec une zone de tournage. Donc, une zone de tournage, c'est l'emplacement où on fabriquait les poteries. On a pu l'identifier parce qu'on a retrouvé les fosses de tours, donc les fosses dans lesquelles sont installées les tours de potier. C'est une fosse circulaire avec un trou central dans lequel on mettait un axe. Et sur cet axe tournait la girelle, donc le plateau sur lequel les potiers façonnaient leur poterie. Et pour les fours, alors les fours sont ont été découverts plus tôt dans les années 80. Il y en a trois dans le secteur. On ne sait pas si ces fours sont vraiment, parce qu'ils ne sont pas à côté de l'atelier de tournage, on ne sait pas s'ils sont associés à cet atelier, parce qu'il pouvait y avoir plusieurs ateliers. En tout cas, la présence de ces fours montre qu'il y a une concentration de l'artisanat de la poterie dans le secteur.
Et est-ce qu'on sait ce qui était du coup produit dans ces ateliers, le type de poterie grâce au raté de cuisson que vous avez retrouvé?
Oui, alors, c'est une production qui est standardisée, c'est de la céramique commune, donc d'un usage courant, qui est utilisée principalement à Chartres et dans sa proche campagne. Donc on trouve de la céramique culinaire, hein, des mortiers pour fabriquer des aliments, des pots pour cuire, et puis des céramiques qui sont un petit peu plus particulières, notamment ce qu'on appelle des pots à miel et des biberons. Alors on ne sait pas exactement si ce sont des biberons, on parle de biberons ou de tire-lait, c'est une céramique vraiment particulière.
Particulière et spécifique. Mmh. Est-ce que l'on sait qui étaient ces potiers? Parce que je crois qu'ils avaient l'habitude pour certains de signer ou de laisser une trace sous les poteries. Est-ce qu'il y aurait des noms qui seraient apparus?
Oui, tout à fait. Notamment sur les mortiers, on trouve des estampilles. Donc c'est une signature de potier. Donc on connaît un certain nombre de ces potiers. On a par exemple le potier Toutus ou le potier Papa ou Souro.
Voilà. Et ces céramiques, est-ce que avec ces mêmes signatures, est-ce que vous en avez, je suis désolée, c'est un peu une question piège, est-ce que vous en avez retrouvé dans d'autres sites de la ville ou uniquement sur ce site-ci?
Non, on en trouve dans toute la ville.
C'est comme ça que vous avez déduit du coup que cette production était plutôt à usage local.
Voilà, c'est ça. La présence des estampilles et aussi les formes des céramiques qui nous permettent de les identifier.
Et au-delà donc de cette activité artisanale, est-ce qu'il y a eu d'autres indices de la vie de nos ancêtres gallo-romains dans ce quartier?
Alors tout à fait, cette zone artisanale côtoyait une zone d'habitat. Alors on considère généralement que la fabrication de poterie est une activité qui doit être relayée en marge de la ville. Alors c'est le cas puisqu'on est en marge de la ville, parce que c'est une activité qui est polluante et qui est dangereuse par l'utilisation du four. Pourtant, on a une trace d'un habitat assez dense et en partie assez luxueux.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez une belle domus ou...
Voilà, on a les traces probablement d'une domus qui possédait des pièces chauffées. Par un système d'hypocauste, hein, donc un chauffage par le sol et par les murs. On a aussi des traces de plaquage en marbre, de peintures murales, notamment des peintures de plafond, dont on peut voir des restitutions dans l'exposition qui se tient actuellement au Musée des Beaux-Arts sur les fresques découvertes à Chartres.
Et donc, du coup, une riche décoration, puis alors du coup, une décoration à la mode, entre guillemets, romaine.
Oui, tout à fait. À cette époque, donc on se situe entre la fin du 1er siècle et le 2e siècle, la ville est largement romanisée.
Et on reprend les codes architecturaux.
Voilà, tout à fait. On a aussi découvert un objet qui a longtemps été un objet unique en France, enfin en Gaule, qui est une otepsa.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, justement, c'est un objet qui a une origine plutôt romaine. Et donc, ça fonctionne comme un samovar. C'est un récipient en métal qui est doté d'un foyer situé sous le récipient lui-même et qui servait à chauffer l'eau ou le vin. On en a des représentations sur des céramiques, des mosaïques romaines qui représentent des banquets.
D'accord, donc plutôt un objet vraiment courant, usuel.
Alors pas tant que non. Ça, parce que c'est quand même un objet en bronze. D'accord. Et c'est sans doute réservé à des personnes assez aisées.
D'accord. Donc une indication qui confirme un peu ce que vous disiez avec cette domus richement décorée, peut-être là des personnes assez aisées qui habitaient ce quartier. Néanmoins, je crois que vous avez fait une découverte assez macabre aussi dans ce quartier.
Alors, on a effectivement des traces d'une sépulture, alors qui correspond à la mise en place de la voirie, hein, qui est à peu près à la même époque. Alors, la présence de cette sépulture, qui est une sépulture d'une femme âgée, est assez étonnante, puisqu'en principe, on ne peut pas inhumer à l'intérieur de l'enceinte urbaine. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à l'intérieur de l'enceinte urbaine. Donc c'est une sépulture isolée, c'est pas la trace d'une nécropole plus importante. Donc on pointe la sonde, on ne sait pas pour quelle raison, on ne saura probablement jamais pour quelle raison elle a été inhumée ici.
Cette personne a été inhumée ici alors qu'il y a normalement la nécropole qui est l'usage habituel pour
qui se trouve hors les murs.
Ouais.
Et on a aussi, là par contre, pour la fin de l'occupation, donc au IIIe siècle, on a découvert au fond d'un puits plusieurs squelettes d'enfants et d'adolescents, 4, qui ont été jetés au fond du puits avant son abandon, au moment de son abandon.
Et là, on sait s'il y a une raison particulière à avoir mis les corps de ces enfants dans ce puits ou pas du tout ?
Non, les raisons peuvent être multiples, suite peut-être à une mort violente ou à une épidémie, bien que les restes que nous avons récupérés ne portent pas la trace d'une maladie.
D'accord. Et est-ce que vous disiez du coup au IIIe siècle, il y a un mouvement général de repli de la ville en son cœur vers l'éperon. Du coup là, vous confirmez aussi vous avez aussi constaté donc cet abandon progressif à partir du IIIe siècle.
Oui, tout à fait. On a analysé aussi les pollens qui étaient conservés au fond du puits et ça nous a indiqué que le secteur était en partie retourné à la culture. Mais ce n'était pas une culture intensive, c'est-à-dire qu'on avait une présence de champs, mais aussi une présence de futaies et une petite présence humaine. Donc, il devait rester une occupation, mais très éparse,
d'accord,
et plutôt tournée vers l'agriculture. On sent qu'à ce moment-là, on n'est plus dans,
on
n'est plus dans la ville.
Un quartier artisanal et on n'est plus, voilà, dans,
on
la
est plus dans la ville. Les voiries existent toujours, mais elles ne sont plus entretenues. On creuse même des fosses sur leur tracé, donc... Voilà, on est vraiment plus à ce moment-là
dans
un phénomène urbain.
On va du coup conclure cette première partie sur le passé antique du quartier pour reprendre avec Laurent Coulon après donc cette seconde pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
poursuivons notre émission Histoire et Mémoire. Donc, pour cette seconde partie de l'émission consacrée au quartier des Grandes Filles d'Yeux aujourd'hui, Laurent Coulon, donc directeur de la direction de l'archéologie et historien, je le rappelle, c'est important parce que dans cette seconde partie d'émission, on va voir tout ce qui s'est passé après le IIIe siècle et notamment les sources qui sont écrites cette fois-ci. Alors Laurent, que se passe-t-il, comme le disait Jérémy tout à l'heure, au-delà du IIIe siècle ?
On a tout d'abord un hiatus, qui est un hiatus documentaire. On n'a pas de traces archéologiques et on n'a pas non plus d'éléments de texte qui nous permettent d'avoir une idée de à quoi ressemblait ce secteur pour la période qui s'étend entre le IIIe et le XIe siècle.
Et au XIe siècle, quels sont les indices que vous avez retrouvés ou que la mémoire a retransmis ?
On commence à avoir des éléments dans les nécrologes et surtout dans les cartulaires qui nous indiquent qu'on est dans un secteur à vocation agricole et une activité qui est tournée vers la culture de la vigne.
Néanmoins, vous l'avez évoqué, dans l'introduction de l'émission, il y a quand même un épisode, donc je ne sais pas s'il est historique ou une légende, mais racontez-le-nous, donc c'est ce siège avec les Normands.
Alors c'est une tradition locale, ancienne, qui se rapporte à un fait historique qui est avéré, et qui, à travers ce fait historique, et la tradition essaye d'expliquer le nom de ce secteur dans les périodes anciennes. Quand on voit ce secteur apparaître dans les textes au XIe siècle, on parle de la colline de Reculé. On va avoir en fond de vallée les prés de Reculé, mais finalement toutes les hauteurs sur la rive droite de l'Eure, dans ce secteur, s'appellent la colline de Reculé.
Alors pourquoi ?
Alors, La tradition va donner une explication à ce toponyme. En 911, un chef normand, donc un chef viking, Roland, tente d'assiéger la ville de Chartres. La ville résiste sous la population est guidée par son évêque, Gosselm, qui est en charge aussi d'une partie de l'administration civile. La ville résiste. Et une armée de secours franque, arrive. Et donc, les Normands se retrouvent coincés entre la ville et l'armée de secours. S'ensuit une bataille. Les défenseurs de la ville font une sortie. Et les Normands sont contraints de
faire retraite. Du coup.
Et donc, ils vont faire retraite et le récit de cet épisode indique qu'ils vont se réfugier sur la montagne de Lève, voilà, où ils seront encerclés par l'armée de secours. Et la tradition dit qu'ils ont opéré leur retraite par le secteur de Reculé, d'où le nom l'explication qui est donnée de façon ancienne à ce toponyme. Alors là, ce n'est que la tradition, aucun texte ne le confirme.
Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'entend plus tellement le nom de cette colline de Reculé, au secteur de Reculé. Néanmoins, Laurent, là c'est un épisode, on va dire, ponctuel, mais le quartier, du coup, vous disiez, donc il va peut-être plutôt avoir un usage agricole. Est-ce qu'on a des traces tangibles de cette activité ?
Dans les textes, on en a énormément. Et puis après, à l'époque moderne, on commence à avoir des plans, des cartes qui nous confirment ce fait. Il reste encore quelques traces de cette activité agricole. Il faut imaginer que une grande partie du secteur où se trouve actuellement l'Institut Notre-Dame correspondait au jardin et surtout au clos de l'évêque, donc un secteur qui était assez grand et qui était intégralement planté en vigne. Et puis on a des mentions d'habitations, de bâtiments qui abritaient notamment des pressoirs, le tout nécessaire à la culture de la vigne.
Et est-ce que d'autres ordres ou se sont installés dans ce quartier qui était donc un quartier où il y avait de beaux espaces, certainement ?
Alors, sur un plan religieux, on va avoir, je crois que la première mention date de 1232, l'installation d'un couvent de femmes, les filles Dieu.
D'où le nom, là, le toponyme, on le retrouve bien par rapport
voilà,
à la rue des
Grandes
Filles
Dieu. Voilà, qui vont marquer sur un plan toponymique la zone. Et d'ailleurs, le terme de reculer va progressivement disparaître.
Au profit de ce nouveau nom. Et là, les religieuses vont s'installer jusqu'à quelle période
Elles sont présentes du XIIIe siècle jusqu'à 1790. Là, elles sont contraintes de quitter leur couvent.
Est-ce qu'on le sait, là, par rapport à la ville actuelle, où se situait leur couvent ? Est-ce qu'il est,
il se trouve, en gros, entre la rue des Grandes Filles Dieu, la rue des Petites Filles Dieu et le boulevard.
D'accord. Là où il y a des immeubles actuellement, alors oui. Hein, une série d'immeubles. Et au-delà donc du XVIIIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Comment le quartier évolue ?
Le quartier va s'industrialiser, et notamment avec la création de la fonderie. Donc on va avoir un quartier plutôt ouvrier, avec des ateliers. Et d'ailleurs, à l'emplacement du couvent des filles Dieu, se développe la fonderie et ça sera occupé par une entreprise jusque dans les années 70. C'est ce qu'on va appeler le terrain SOCAM. Et c'est dans les années 70 que commence que ces ateliers, cette activité industrielle est progressivement remplacée par finalement des opérations immobilières avec la création d'immeubles, et ce qui va donner lieu aux premières opérations archéologiques à Chartres, enfin, parmi les premières opérations archéologiques à Chartres, notamment la fouille du terrain SOCAM.
Et est-ce que cette fouille, du coup, a révélé quelque chose d'important, Jérémy ?
C'est sur cette fouille qu'ont été trouvés l'Otepsa et, entre autres, un four et la maison sur hypocauste, avec chauffage sur hypocauste, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et est-ce que de cette fonderie, il en reste des traces ? Est-ce qu'on a des traces de cette activité que vous avez pu retrouver par ailleurs ?
Alors, on a trouvé effectivement des traces de cette activité au moment d'une fouille en 2017 sur le haut de la rue des Grandes Filles Dieu. On y a fouillé une carrière probablement creusée au XIXe siècle, qui a raboté le coteau et fait disparaître toute trace d'une occupation éventuelle antique. Et pour combler cette carrière, on a utilisé des résidus de la fonderie, du métal, probablement des produits chimiques. C'est la seule trace qui reste actuellement de la fonderie.
L'activité de la fonderie qu'on a retrouvée du coup, même au-delà du terrain. Laurent, on va refaire juste une petite parenthèse parce que vous m'aviez dit, lorsqu'on a préparé l'émission, que le couvent avait servi aussi à un moment donné de base lors des guerres de religion, c'est ça ?
Voilà, lors du siège de Chartres en 1568 par les Huguenots, les Huguenots ont installé une partie de leur artillerie dans l'enclos des filles Dieu, ce qui leur permettait de protéger leurs canons tout en tirant sur les murs de la ville. Et c'est à partir de cette position qu'ils vont créer la brèche dans le rempart.
Et voilà, brèche qu'on connaît, notamment avec l'école qui est justement installée à cet endroit. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation du quartier des Grandes Filles Dieu. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver ceci dans le Votre Ville du mois d'avril, dans le dossier quartier. Je rappelle aussi que Jérémy avait coordonné un magazine Archéo, le numéro 15 de la série, consacré donc aux potiers gallo-romains du secteur des Filles Dieu à Autricum. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à réécouter vos émissions Histoire et Mémoire sur le site de Radio Grand Ciel. Thank you.
Thank you.